Radio Grand Air.
J'ai glissé, chef.
Figurez-vous que Thérèse n'est pas moche, elle n'a pas un physique facile.
J'ai du mal à parler parce que j'ai les dents qui poussent.
Quand on parle pognon, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute.
Tu me fends le cœur.
Si je connaissais le camp qu'a fait sauter le pont.
Ce soir, je vais conclure.
La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
C'est pas son jour, dites-donc.
C'est jamais son jour.
Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as.
C'est là qu'est l'os.
Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner.
Et bienvenue sur Radio Grand Air, c'est l'heure du cinéma et on retrouve Pascal qui a retrouvé sa grande forme cette semaine pour nous parler cinéma. Bonjour Pascal.
Bonjour Christophe. Oui, après une bonne grippe, voilà pourquoi j'étais absent et pas très efficace pour écrire quoi que ce soit.
En tout cas, nous sommes très heureux de te retrouver.
Alors on se retrouve effectivement à la brèche, hein. Donc bonjour Christophe, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Grand Air. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce numéro 96 d'Entracte.
Et voilà, on approche des beaux jours, le printemps arrive, ouais. Et nous sommes très heureux de te retrouver pour cette nouvelle édition d'Entracte, ouais. L'émission qui donne envie d'aller au cinéma et qui nous offre sur les toiles du cinéma La Brèche, et bien quelques rendez-vous cinéma de la semaine. Alors on va voir le sommaire avec toi cette semaine, 6 sélections que tu as choisies.
Voilà, j'ai choisi 6 films. Alors avant, tu parlais du printemps et c'est très bien d'ailleurs parce que bientôt, c'est le printemps du ciné.
Ah oui, comme chaque année, une belle
printemps
opération.
Ouais. Voilà, donc ça sera le dimanche 24, le lundi 25 et le mardi 26 mars. Et le tarif est unique, 5 euros.
D'accord.
5 euros pendant 3 jours.
On ne peut pas se priver.
Il ne faut pas se priver, non, évidemment, il faut venir voir plein de films. Puis de toute façon, il y a du choix à La Brèche, dans tous les cas. Alors, 6 films cette semaine, oui. On va parler du dernier film de Tian Xiapeng. J'espère que je le prononce bien, que je ne massacre pas le chinois.
De toute façon, la Chine,
oui. Voilà, Le Royaume des Abysses, oui, oui, un film chinois. On va parler aussi, on va rester en Chine. On va parler de Kung Fu Panda 4, où on aura d'ailleurs une avant-première donc cette semaine. On va en parler, donc le dernier film de Mike Mitchell, c'est Stéphanie Steen. On va parler, si je te dis Maurice Ravel, tu me réponds quoi?
Maurice Ravel?
Oui.
Boléro.
Quand même,
ouais. J'ai vu le titre.
Ah ouais, c'est vrai, ça te dit rien.
Ah, mais si, si, si.
C'est un bon, d'accord. Ouais. Tu l'as pas étudié au lycée?
Si, mais c'est loin. Hein.
C'est avec monsieur. Le prof de musique qu'il y avait au lycée.
Monsieur Estrade.
Monsieur Estrade.
Voilà.
Tout le monde étudie le Boléro de Ravel avec monsieur Estrade. Je sais pas, tu te souviens pas des leçons?
Ah, mais je me rappelle très bien.
Voilà, il fallait nommer tous les instruments qui arrivaient dans la partition au fur et à mesure et tout. C'était vachement bien.
Très intéressant, très ludique.
Et ouais, c'est comme ça qu'on étudie d'ailleurs les instruments de musique classique, hein, mm-hmm. Comme les trombones et tout ça, quoi. Donc voilà, qu'on connaissait pas trop à l'époque. On va revenir sur le film d'Edouard Pluvieux avec Maxime Gasteuil, 14 jours pour aller mieux. Alors évidemment, ça a été un gros carton quand on avait fait l'avant-première, donc avec Maxime Gasteuil et toute l'équipe
exactement,
du tournage.
Exactement,
hein.
Exactement.
Voilà, tu te souviens, voilà, mm-hmm. La salle était entièrement, elle était pleine, la salle. Donc on revient un petit peu dessus avec des histoires de tournage. On va aller aussi découvrir un petit peu la dernière création d'Isabelle Brocard. Là, on va revenir un petit peu dans le temps, on revient au 17e, là. Mm-hmm. Un film d'histoire, Madame de Sévigné. Donc, je crois qu'elle est extraite d'un livre.
Absolument, oui, ouais, tout à fait.
D'un roman.
On a dû étudier aussi au lycée, mais ouais. c'est loin.
Je crois que c'est Gustave Flaubert, il me semble. On va aussi aller en Espagne, du côté du Pays Basque, espagnol, mm-hmm. avec le dernier film d'Estibaliz, Urresola Solaguren. Là, tu dis que t'es vraiment en avare. 20 000 espèces d'abeilles. Et dans le cadre de la sortie donc de 14 jours pour aller mieux, j'ai choisi un personnage qui n'est pas trop connu et dont on parle assez peu. Et je trouve ça un peu injuste parce que quand même on l'a vu, il revient un petit peu sur les écrans. Bernard Farcy.
Ah oui.
Qui est-il?
Alors Bernard Farcy, je crois qu'il a joué un des rôles principaux dans Taxi.
Exactement.
Le commissaire Gibert.
Exactement, c'est lui. Oui, oui, et oui.
Avec sa moustache.
Voilà.
Comme on dit bonjour en japonais. Konnichiwa.
Konnichiwa, ouais.
Très bien, ça sera l'occasion de faire un petit éclairage sur,
ouais, sur sa carrière. Ouais. Oui, oui, oui. Mm-hmm.
Eh bien, c'est parti avec le premier choix de la semaine, Pascal, Le Royaume des Abysses. Alors, on va.
Un film d'animation chinois.
Voilà,
le
c'est
Royaume
ça. On va aller sur une production chinoise, ouais.
De Tiang Xiapeng.
C'est beau.
Je suis content parce qu'il n'y a pas les noms d'acteurs. C'est un dessin animé.
C'est plus simple.
C'est un film d'animation, un film chinois, donc d'1h52, hein, à partir de 10 ans. Hein. Alors, c'est l'histoire de Cheng Su, une fillette de 10 ans, hein, qui est aspirée dans les profondeurs marines durant une croisière familiale. Elle découvre l'univers fantastique des abysses, un monde inconnu peuplé d'incroyables créatures. Dans ce lieu mystérieux émerge le restaurant des abysses dirigé par l'emblématique Capitaine Nan. Poursuivi par le fantôme rouge, leur route sera semée d'épreuves et de nombreux secrets. Que d'aventures en perspective. Mmh. Donc avec le Royaume des Abysses, Tian Xiaopeng voulait explorer le thème de la recherche du sens de la vie. Et comme il nous dit, tout le monde éprouve des émotions négatives à un moment ou à un autre et peut parfois avoir l'impression que le monde entier est sombre et terne. À travers cette œuvre, je souhaite montrer comment nous pouvons donner du sens à une existence qui semble dépourvue de lumière et découvrir la force nécessaire pour avancer dans nos vies. Donc Tian Xiaopeng est un fan de Jules Verne. Et passionné depuis toujours par le roman 20 000 lieues sous les mers, évidemment, de Jules Verne, le réalisateur voulait créer une histoire d'aventure sous-marine. Donc avec ce film, Tian Xiaopeng voulait innover en créant une image originale de l'océan. Et comme il nous dit, c'est pour cela que j'ai cherché des formes qui pourraient apporter de la nouveauté ainsi qu'une certaine dose de fantaisie. Je voulais créer un océan flamboyant grâce à des couleurs vives et riches. Je souhaitais ainsi déployer un style artistique unique tout en espérant distinguer de cette façon le monde fantastique aux couleurs vives de la réalité plus terne et grise. Alors, le réalisateur revient sur la place. Alors, il y a des loutres évidemment, donc entre le sous-marin et le terrestre, il y a les loutres dans son film, donc, et leur symbolique. Alors, il nous dit, premièrement, je souhaitais mettre un animal marin dans l'histoire, et deuxièmement, j'aime beaucoup la loutre, car je la trouve très anthropomorphique. Les loutres se frottent le visage et tapent sur des coquillages comme des enfants humains. Enfin, elles tapent sur des coquillages, sur des pierres. T'as déjà vu faire un peu les loutres marines ?
Alors oui.
Elles
oui,
se mettent
oui,
sur le dos, elles mettent, mm-hmm. posent une pierre sur le ventre et elles cassent les coquillages avec.
C'est très malin.
Et oui, donc la loutre Tangdu correspond au petit frère de Cheng Xiu. Il aime les bonbons à des pansements autour des mains. Bien qu'elle ne parle pas, la loutre est très proche de Cheng Xiu. C'est une bonne métaphore du réconfort que peut ressentir Cheng Xiu lorsqu'elle est avec son frère dans la réalité. Donc selon Tian Xiaopeng, l'animation chinoise connaît un essor florissant. Et tant mieux. De nombreux jeunes très talentueux produisent d'excellentes œuvres et explorent différents domaines. J'espère vouloir servir d'appui pour le développement de cette industrie en utilisant humblement mes propres ressources afin de permettre à davantage de jeunes d'être optimistes quant à l'avenir du métier, de sorte qu'ils puissent exprimer leurs talents sans souci. Et voilà un bel appel pour tous les gens, les petits chinois qui ont des projets. Mm-hmm. Voilà.
Oui, puis c'est original d'aborder le thème effectivement des profondeurs. C'est important aussi de mettre un petit peu en avant cet univers si menacé de nos jours.
Exactement. Alors, je ne sais pas si ça parlera d'écologie comme dans certains autres
films, notamment japonais. Oui, mais c'est déjà une première approche pour sensibiliser.
Exactement.
Et surtout faire prendre conscience qu'on a des richesses et que c'est un monde aussi si sympa.
Très riche. Et comme il nous dit, plein de couleurs. Et c'est vrai, j'ai vu le film annonce, ça pète de couleurs en partout. Hein. Donc ça sera à découvrir donc, à la brèche cette semaine. Le Royaume des Abysses.
Voilà, on va passer 1h52 hein, quand même pour aller dans les abysses.
1h52, hein. Oui, c'est ça.
Eh bien, c'est noté pour cette production chinoise, Pascal. On va rester un petit peu dans cet esprit. Avec,
on va rester en Chine.
Voilà, absolument.
On va avec, passer sur Terre.
Voilà, avec un personnage
ouais,
qui est aussi... Ouais,
oui. Il s'appelle Po. Oui. C'est vrai, en plus.
C'est vrai, et il aura traversé plusieurs générations.
Et
parce
ouais,
qu'on est au quatrième épisode, enfin en tout cas de la série, des Kung Fu Panda.
Kung Fu Panda 4, que nous aurons donc en avant-première le dimanche 17 mars à 16h à la brèche. Mm-hmm. Donc là, évidemment, on va aller en Chine, mais ce n'est pas un film chinois.
Ah bon ?
Non.
D'accord.
Désolé de te décevoir.
Ah ben je suis triste.
Les Chinois ne se sont pas emparés du scénario parce qu'il est américain.
Ouais.
film américain, donc 1h34, aventure animation donc de Mike Mitchells et Stephanie Steen. Donc après trois aventures dans lesquelles le guerrier dragon Po a combattu les maîtres du mal les plus redoutables, le destin va de nouveau frapper à sa porte pour l'inviter à enfin se reposer. Or, Caméléon lorgne sur le bâton de sagesse de Po, à l'aide duquel elle espère bien pouvoir réinvoquer les maîtres maléfiques du royaume des esprits. Po va devoir trouver de l'aide pour réussir à protéger la vallée de la paix. Ce sera l'occasion pour Po de découvrir que les héros ne sont pas toujours là où on les attend. Alors évidemment, c'est 8 ans. 8 ans après, hein,
ouais.
Le dernier opus, l'avant-dernier. Donc Foupanda 4 sort 8 ans après le troisième film. Donc Mike Mitchell explique: c'est vrai que cela semble être une éternité. Nous voulions faire le film parfait avec une histoire parfaite. Étant donné que la barre a été mise très haute avec les trois premiers films, ce ne fut pas chose aisée. Nous avions besoin de faire évoluer Po afin qu'il devienne ce que vous verrez dans Kung Fu Panda 4. Le metteur en scène ajoute: l'autre défi était d'élever le degré d'action avec des combats à couper le souffle. Sans compter que nous devions aussi de monter d'un cran l'humour. Ça a pris beaucoup de temps pour arriver à la perfection, ou presque. Avec le temps, la technologie a beaucoup évolué, ce qui nous a permis aussi de produire un film avec un résultat visuel sans précédent. Donc Tyler Phillips, le directeur de l'animation, a travaillé sur les contrastes entre l'apparence inoffensive de la plupart des adorables animaux qui habitent dans la vallée de la paix, comme les oies, les cochons et les lapins, et la nature spécialement vicieuse des petits bébés lapins qui peuvent se transformer en monstres terrifiants. Alors pourquoi? Ça m'a fait rire parce que il s'est inspiré du lapin maléfique de Monty Python.
Ah oui,
parce
d'accord.
Que tu te souviens, quand ils arrivent à la caverne, t'as le lapin qui surgit et qui égorge les chevaliers. Voilà, il s'est inspiré de ces petits lapins. Donc Monty Python, donc évidemment dans Sacré Graal, et de véritables bêtes féroces comme les loups et les ours. Donc Sean Sexton, le responsable de l'animation des personnages, qui a une formation de taekwondo et en aikido, a intégré des enchaînements réels avec des mouvements de Po. Avec l'aide d'un chorégraphe et de cascadeurs, il a pu avoir des références donc précise et filmer des images qu'il a ensuite intégrées à l'animation. Donc la thématique du changement est au cœur de ce film, comme l'explique Mike Mitchells. Même les enfants ont peur de grandir et de changer de classe ou d'école. Je pense que beaucoup de personnes ont peur de ce qu'ils, elles, laissent derrière eux, alors qu'en fait il s'agit de regarder l'horizon et de se lever avec lui. Avec ce film, nous rappelons à notre public qu'aller de l'avant est souvent une bonne chose et qu'il faut savoir tourner la page. Voilà une bonne leçon. Donc même Mitchell nous explique au sujet de Caméléon. Alors Caméléon, c'est la méchante. Il nous explique: les vilains sont essentiels pour le succès de ces films. Et oui, sinon ils ne mettraient pas en contraste les héros. Je pense que cette franchise a les meilleurs vilains de tous les temps. Dans ce film, c'est la première fois que Po doit affronter une méchante. Elle a des pouvoirs super naturels que les autres vilains n'avaient pas. C'est une créature qui peut changer d'apparence comme elle le veut. C'est une shapeshifter, c'est-à-dire une métamorphe, donc il change d'apparence. Dans la version américaine, nous avons eu la chance d'avoir l'actrice Viola Davis pour faire la voix de Caméléon. Et puis, vous allez être surpris, nous avons fait revenir tous les vilains des autres films dans ce nouveau volet des aventures de Kung Fu Panda. Donc l'équipe technique a sélectionné des scènes de combat et des chorégraphies tirées d'une variété des meilleurs films d'action pour s'en inspirer, notamment au niveau des mouvements de caméra, des cascades et des combats. De plus, l'équipe de cascadeurs a réalisé des séquences, écoute bien, des séquences costumes d'animaux.
Ah bon?
Donc les animateurs puissent les étudier pour pouvoir en tirer une animation plus authentique. Alors, je vais dire un truc.
Oui.
Quand t'as un costume de panda sur le dos.
C'est pas évident de faire des.
Ouais, c'est pas évident de faire des pirouettes quand même. Ouais. Moi je dis chapeau quand même.
Alors, ce qui est relativement sympa, c'est effectivement ces capteurs qu'on met pour simuler.
Partout, oui, pour le numérique.
C'est vachement bien fait.
Oui. Enfin, il faut être capable de bouger dans une grosse doudoune.
Ça a été le cas pour Avatar, hein, notamment lorsque
Paris,
ils ont créé Avatar.
Exact. Ouais. Mmh. Oui, ils se servent de ces petits points-là pour faire des calculs savants et reproduire des personnages. Ouais. Donc, mise en scène par Mike Mitchell, c'est déjà à l'œuvre sur Shrek 4, hein, faut le savoir. Hein. Il était une fin, les Trolls et la grande aventure Lego. Kung Fu Panda 4 se déroule après les événements du troisième film sorti en 2016. Il explique toutefois qu'il n'y a pas de notion de temps dans ce film. Po a simplement grandi et évolué. Malgré tout, il demeure ce grand enfant que l'on adore. Alors, apparu pour la première fois, le premier date de quand?
Alors le premier, je dirais 99.
Hein. Il date de 2008.
Ah d'accord, j'étais un peu...
Oui, il date de 2008, ouais. Donc le panda paresseux des studios DreamWorks a rapidement conquis le cœur de millions de spectateurs. Alors pour la preuve, les trois premiers ont rapporté 1,8 milliard au box-office, ouais. C'est énorme. Et Kung Fu Panda a généré donc 632 millions. Kung Fu Panda 2, 2665 millions. Enfin, tu vois, ça va vraiment, vraiment crescendo, quoi. Donc, c'est un succès. Alors, évidemment, oui, ils ont tenté le 4. Mais moi, c'est pareil. Moi, tu sais, toujours, moi, j'aimerais bien que. Surtout Mike Mitchell, qui déborde d'invention et d'imagination, mais qui invente d'autres univers. Il y a plein d'animaux qui méritent d'être animés dans les films d'animation, quoi. Et c'est ça que je le reproche un peu, donc j'espère qu'il n'y en aura pas 28, quoi, Kung Fu Panda 4. Alors j'espère dans tous les cas que celui-ci soit réussi, hein, parce que c'est toujours une gageure, hein, tu sais, faut rester dans le tempo, faut rester dans l'innovation, dans l'humour, comme il nous explique. Donc mais j'espère que ça sera un franc succès.
Oui, avec une petite touche aussi par rapport à nos acteurs français qui font la doublure de Kung Fu Panda, on va pas
toujours,
oublier,
oui,
Pierre,
oui,
Arditi,
ouais,
et Manu Payet, hein, qui ont participé à cette, ouais,
exact,
réalisation.
Manu Payet, oui, exact.
Et Pierre Arditi, c'est plutôt étonnant, mais il a fait partie aussi du projet.
Ah, une doubleur aussi, oui, ouais, absolument. Ouais. Donc, à découvrir La Brèche. Je rappelle la date.
Allez, allons-y.
Dimanche 17 mars.
Avant-première.
Venez nombreux à 16h à La Brèche. Kung Fu Panda 4.
Et bien, au fait, saliver, on va écouter un extrait.
Tu dois passer à l'étape suivante de ton voyage.
Ah bon? Je vais plus être le guerrier dragon?
Tu seras promu guide spirituel de la vallée de la paix.
Apaisé. Apaisé.
Vire tes nageoires de mon territoire!
Affamé, à manger, légumes et nouilles sautées.
Ah, oh, ça marche pas du tout.
Tai Lung, je suis fan. Quand je posséderai le kung-fu des plus grands méchants,
personne n'osera douter de mon pouvoir. Pas même l'illustre. Guerrier dragon.
C'est qui ça?
La plus puissante sorcière polymorphe, la caméléone.
Et comment je la trouve, cette la caméléone?
Je vais t'amener tout droit devant sa porte.
Ah! On est face à une armée?
Alors on va créer notre armée à nous.
Mais on est où, là?
Les plus grands escrocs et criminels vivent ici.
T'es une criminelle recherchée?
T'as l'air étonné, c'est étonnant.
Attention les enfants, les feux d'artifice, c'est dangereux.
La violence chatouille le bidon.
Pourquoi on vous aiderait?
On peut battre la caméléone tous ensemble. Guerrier dragon, c'est ce que je fais de mieux. Scadouche.
J'y connais quoi en guidage spirituel, sérieux?
Que tiens-tu dans la main?
Un cookie.
Ah. Tu as été choisi pour être bien plus que ce que tu es déjà.
Ah. Voilà.
Comment on règle ça? Vite et sans douleur?
Yeah.
Ou lentement avec douleur?
Lentement avec douleur!
T'as trouvé un rival à ta mesure, Caméléon.
On se ressemble, toi et moi.
Scadouche.
Laisse faire. Je vais lui botter mes fesses.
Voilà, Kung Fu Panda, ça déménage. Et puis, évidemment, on va retrouver l'univers de ce personnage. On sort de quatrième volet, on le rappelle. Donc, on attend avec impatience cette suite. Hein, il y a des fans. Et vous serez complet. Pas besoin de manger des bambous pour venir voir ce film d'animation. On va enchaîner avec un hommage à Maurice Ravel,
absolument,
cette fois-ci, Boléro, à voir cette semaine à La Brèche.
Oui, hein. Un biopic musical, donc un film français de 2 heures, hein. D'Anne Fontaine, Boléro, grand projet. Alors au niveau des acteurs, on va retrouver Raphaël Personnaz. Alors à la base, c'était pas lui, hein, qui devait jouer Maurice Ravel.
D'accord.
Anne Fontaine avait choisi Swann Harlow. Tu vois qui c'est, Swann Harlow?
Ah, ça me parle, ouais.
Celui qui a joué dans Petit Paysan, il a joué aussi dans Anatomie d'une chute, celui qui fait l'avocat.
Ah oui, exact, ouais,
tu
ouais,
vois un petit peu.
D'accord.
Voilà. Et Swann Harlow, je l'ai croisé en octobre, Gare Montparnasse, on s'est croisés.
Sur le quai?
Sur le quai de la gare, absolument, ouais, ouais. Et donc ça sera Raphaël Personnaz, donc pareil, très bon acteur aussi. Hein. On va aussi retrouver, ah oui, une autre très bonne actrice, Doria Tillier. Tu vois qui c'est? Mais si, quand il y a celle qui joue dans une affaire d'honneur.
Ah oui, d'accord, ouais.
Monsieur, okay. Monsieur et Madame Adelman.
Ok,
je vois. À la belle époque.
Ouais. Ouais.
Jeanne Balibar, qui revient aussi, pareil, ça fait longtemps.
Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles.
Ouais. Emmanuel DeVos, Vincent Pérez, Sophie Guillemin, Anne Alvaro, Alexandre Tarot. Donc nous sommes en 1928, alors que Paris vit au rythme des années folles, la danseuse Ida Rubinstein commande à Maurice Ravel la musique de son prochain ballet. C'est parti de là, le boléro, c'est une commande.
Ah oui.
Et oui, c'est une commande, hein, tétanisé et en panne d'inspiration. Le compositeur feuillette les pages de sa vie, les échecs de ses débuts, la fracture de la Grande Guerre, l'amour impossible qu'il éprouve pour sa muse, Missia, certes. Ravel va alors plonger au plus profond de lui-même pour créer son œuvre universelle, le Boléro, qui rayonne encore de nos jours et dont tout le monde se rappelle, évidemment, et qui ne vieillira jamais. Le c'est Boléro vrai. De la Ravel, mais c'est indémodable. Enfin, c'est une histoire. Et c'est absolument un morceau fantastique. C'est quelque chose qui parle à tout le monde, je pense. Mm-hmm. Hein, tout ce qui a une formation un petit peu classique, qui a écouté un peu de musique classique, évidemment. Je tiens à dire une chose, et bon, ça fait un petit moment, ça fait quelques temps qu'on le passe, quelques temps, on va dire quelques jours, hein, et les gens en sortent ravis. Hein, ravis du film. Ils ont été agréablement surpris. Hein. Alors, Anne Fontaine est en premier lieu partie d'un souvenir. Lorsqu'elle était jeune danseuse, elle a été marquée par le Boléro dans la chorégraphie de Maurice Béjart, dansée par Georges Donne, qu'elle a trouvée à la fois moderne et érotique. La réalisatrice précise. Il y a ensuite un désir, l'envie depuis longtemps de réaliser un film sur la musique et la danse. Mon père était compositeur et organiste. J'ai baigné toute ma vie dans une atmosphère musicale. Il y a enfin l'énigme, très bien ça, le fond. Il y a enfin l'énigme que représente.
On l'a trouvé.
Le créateur de cette œuvre inoxydable qui voyage à travers les époques et les pays, inspire les groupes pop comme la musique répétitive. Comment Ravel l'avait-il conçu ? Je savais peu de choses sur sa personnalité. Je me suis mis en tête de le rencontrer à travers la construction cyclique et envoûtante du Boléro. Donc pressenti, donc Swan Arlo était à l'origine envisagé pour se glisser dans la peau de Maurice Ravel. Virginie Efira et Vicky Cripps étaient elles aussi pressenties pour prendre part au film. Bien que Ravel ait suscité d'innombrables analyses de spécialistes, la somme biographique des critiques de Marcel Marna, qu'Anne Fontaine a eu la chance de rencontrer, reste la bible sur le sujet. Ces interviews de Manuel Rosenthal, qui a été l'élève de Ravel, et celles de Marguerite Long, qui était pianiste légendaire et autoritaire, interprétée par Emmanuel DeVos dans le film, portent principalement sur la construction des œuvres. Marguerite Long insiste notamment sur leur minutie, leur précision et leur structure quasi mathématique, confie la cinéaste. Alors évidemment, Maurice Ravel a connu une période difficile comme on a dit tout à l'heure, et justement à la période justement où on lui commande donc, la musique du ballet. Hein. Donc dans Boléro, on découvre Ravel à une période qui ne lui est pas propice, comme l'explique Anne Fontaine. Il est enlisé, il ne sait pas comment aborder le ballet qu'il a promis à cette femme aussi tenace que baroque, qui est Ida Rubinstein, ex-danseuse des ballets russes, devenue la star et la productrice de ses propres spectacles. Je ne te dis pas la pression qu'il a dû avoir. Mais comment va-t-il faire ? Il avait envie de fuir et son malaise provoque une proximité avec le spectateur. Tout le monde comprend qu'on puisse se sentir impuissant à un moment de sa vie, qu'il ne s'agit pas simplement d'appuyer sur une machine pour que l'inspiration revienne. Ce rapport à la création m'intéressait beaucoup. Donc Anne Fontaine donc, a tourné dans la vraie maison de Ravel, quand même. Ça, c'est intéressant quand même. Le Belvédère à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. Comme elle nous dit, c'est un véritable miracle qu'on ait obtenu le droit d'y planter notre caméra. Ravel l'avait entièrement conçu pour y travailler. Tout y est à son image. Les bibliothèques, les frises, l'étroitesse des couloirs, le jardin japonais, tout y est petit, comme lui et comme le rappelle de la douleur qu'il en éprouvait. Je l'avais visité, bien sûr, et pensais reconstruire un décor jusqu'à ce que je me dise qu'il serait extraordinaire d'y tourner, là, et dans le cimetière de Montfort-l'Amaury. Cela a été de longues tractations, et la mairie a fini par me faire confiance, en posant une seule condition. Nous ne pouvions pas être plus de 7 personnes dans les lieux. Le prestige d'Alexandre Tarot, qui joue la musique du film, immense pianiste et grand ravelien, a sûrement aidé à cet accord, se rappelle la réalisatrice. Alors, côté chorégraphie, après Coco, avant Chanel, Perfect Mothers et Jamie Bovary, c'est la quatrième fois qu'Anne Fontaine collabore avec le directeur de la chorégraphie, de la photographie, donc Christophe Bocarne. Tous les deux ne voulaient pas d'une construction chronologique ou naturaliste, mais plutôt d'une construction de sensations ou d'associations. Avec Christophe, nous avons beaucoup travaillé sur les transitions d'époque perçues comme des éléments sensoriels, des raccords de pensée et de sensations qui nous permettent de voyager avec Ravel à l'intérieur de lui-même. Nous avons aussi beaucoup travaillé sur la couleur, nous la voulions vivante et non pas compassée, comme elle l'est parfois dans les films d'époque où la lumière semble se mettre en garde à vous devant l'histoire. Ça, c'est une belle, j'aime beaucoup cette phrase.
Ah oui, absolument, à garder, absolument.
Alors, il a fallu s'améliorer au piano. Alors, Raphaël, ce personnage,
ah bah oui, là,
bosser le piano.
C'est performance.
Ah, oui, alors là, oui. Moi qui en fais un petit peu, je peux te dire, là, c'est quand même assez
complexe. C'est costaud. Ouais.
Surtout quand tu t'attaques à la musique classique. Hein, ouais. Ça n'est pas rien. Alors, si Raphaël, personnage, a de solides bases en piano, il a dû s'améliorer pour les besoins du film aux côtés du célèbre pianiste Alexandre Tarot. Le comédien se souvient. Lorsque Anne m'a présenté Alexandre, j'ai vu que c'était que de jouer du Ravel. Alexandre m'a mis entre les mains d'un professeur, Frédéric Weiss-Knitter, avec qui j'ai appris à jouer la pavane et plusieurs autres morceaux. Ce qui fait qu'à 80% dans le film, ce sont mes mains qui jouent. Bravo Raphaël, quand même, il faut le faire. Il est important pour le film donc, que je sois à mesure d'assurer ces 80%. Alexandre Tarot prend le relais sur les 20% restants. Il m'aurait fallu au moins 10 ans de pratique pour atteindre son niveau et un miracle pour atteindre son génie. Oui, ça aussi. C'est une belle phrase aussi. Alors, Raphaël était très maigre, très sec. Ainsi, Raphaël Personnaz a perdu 10 kilos. 10 kilos.
Double performance.
Par souci de ressemblance, mais aussi pour rentrer dans la peau du personnage. Et Alexandre Tarot m'avait confié que lorsqu'il jouait du Ravel, il avait le sentiment de rentrer dans ses mains. J'aimais beaucoup l'image. J'ai essayé d'appliquer cela à mon corps. Ravel s'éteint toujours très droit. Il existe 23 petits films muets de lui. Dès qu'il sent que l'attention est posée sur lui, qu'il repère la caméra ou que quelqu'un s'approche de lui, il se raidit. Même lorsqu'il est au piano, il s'éteint très droit. Comment pouvait-il vivre éternellement comme ça ? Mystère. Et il ne se relâchait qu'en composant sa musique. J'ai donc travaillé cette forme de sécheresse et en même temps cette bonté que tous prêtent à Ravel. Donc Raphaël, personnage, a dû apprendre à diriger un orchestre. Et oui, il n'y a pas que le piano. Parce que le boléro, quand même.
Oui, ils sont nombreux hein, dans l'équipe.
Et oui, une nécessité pour les scènes où Ravel dirige la valse et le boléro. Jean-Michel Ferrand, son professeur, l'a d'abord fait répéter dans une petite salle du conservatoire du 12e arrondissement. Et comme il nous dit, est enfin venu le moment où je me suis retrouvé devant 90 instrumentistes très chevronnés. Et comme il nous dit, tu verras la sensation physique qui est un orchestre jouant devant soi est incomparable, m'avait prévenu Jean-Michel Ferrand. Il n'avait pas menti. En sortant des premières répétitions, alors que je venais de diriger des musiciens formidables qui m'avaient chaleureusement fait croire que j'étais un chef d'orchestre formidable, mes jambes tremblaient. Je n'avais jamais ressenti un choc d'une telle puissance. J'ai adoré tourner ces scènes. J'aurais pu continuer de les jouer à l'infini, se rappelle l'acteur. Oui, moi aussi, je l'envie. Moi aussi, j'aurais adoré.
C'est une belle expérience.
Ouais, ouais, diriger un orchestre.
Ouais.
Oh, oui. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours hein. beauté. Oui, 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 mais je trouve vraiment ça super.
Ouais.
J'espère que je vous ai donné envie d'aller voir quand même Boléro. Boléro, allez prendre une petite leçon de musique classique, allez découvrir un petit peu tous ces acteurs qui ont vraiment bossé. Hein.
Parce qu'il y a une histoire derrière ce projet.
Il y a toute l'histoire
projet.
De Maurice Ravel, bien sûr.
Exactement, et puis ce Boléro qui a marqué les esprits, autant par sa composition, son histoire, et puis surtout ses instruments.
Ouais. Ah ouais, c'est un gros sujet d'étude, voilà pourquoi on l'avait en leçon.
On a l'impression de vivre un film, en fait.
Absolument. Mmh. Et voilà, la petite énorme qui a traversé son époque et qui va traverser les siècles. Elle traversa les siècles, sa musique à Ravel, hein, et notamment le boléro. Hein. Personne, je connais personne qui dit je déteste le boléro de Ravel, ça n'existe pas.
Ouais.
Ça n'existe pas. Donc pour ça, c'est pour ça qu'il est taillé pour traverser les siècles. Et voilà, et bravo. Bravo à Maurice Ravel et puis surtout à tous les protagonistes du film qui ont vraiment bossé pour se faire un rendu que tout le monde apprécie. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens sont vraiment, vraiment ravis de la salle. Mm-hmm. Donc je vous invite cordialement à venir le découvrir.
Que vous soyez
à la brèche cette semaine.
Évidemment musicien ou non, vous serez certainement comblé par ce très beau biopic consacré à Ravel. Voilà, avec un petit extrait du Boléro.
Ouais, c'est chouette, ça, en fond. Ouais, j'aime beaucoup le fond musical, plus, bien sûr.
Puis en plus, avec la stéréo, parce que ça s'écoute en stéréo, évidemment.
Ah bah oui.
Alors, on a tout, tout dans les oreilles.
Alors, soit tu mets des grosses enceintes et t'envoies la sauce, parce que ça s'écoute assez fort, quand même. Ou soit ça s'écoute avec un casque, avec un bon equalizer, une fois que ça soit bien équilibré, ouais, bien sûr. Ouais.
Allez, on va passer du Boléro à 14 jours pour aller mieux, tout simplement. On en a besoin en ce moment d'être un petit peu mieux, effectivement.
Oui,
dans ce
monde un petit peu, anxiogène, je dirais. Oui, ça va faire du bien d'aller rire un petit peu. Édouard Pluvieux est là pour vous présenter dans 14 jours pour aller mieux. Un film français d'1h36, c'est une comédie. Hein. Alors évidemment, on va retrouver Maxime Gasteuil, hein, Zabou Breitman, Romain Lanéry, Lionel Abelansky, Chantal Lobby, Michel Boujna, Bernard Farcy et Anne Serra. Donc c'est l'histoire de Maxime qui est un cadre ambitieux et cartésien et qui ne pense qu'à sa carrière et à son futur mariage avec Nadège, la fille de son patron. Au bord du burn-out, seul à ne pas s'en rendre compte, il se retrouve embarqué par son futur beau-frère Romain au beau milieu de son pire cauchemar. Un stage de bien-être encadré par Clara et Luc, un couple de clairvoyants avec des stagiaires plus lunaires les uns que les autres. 14 jours pour aller mieux au cours desquels les principes et préjugés vont être soumis au régime zénitude et bienveillance. Alors, 14 jours pour aller mieux est réalisé par Édouard Pluvieux, réalisateur d'Amis Publics et de la série Super High, tous deux portés par Kev Adams. Il a également collaboré avec l'humoriste et acteur sur 4 de ses spectacles dont Tout est possible en duo avec Gad Elmaleh. Donc c'est en travaillant sur le spectacle Tout est possible de Kev Adams et Gad Elmaleh qu'Édouard Pluvieux découvre en première partie Maxime Gasteuil. Et comme il nous dit, je le trouve sympathique, intéressant et je décide d'aller le voir à Lyon dans une petite salle où Louis joue. Là je découvre un one man show assez décousu, mais un artiste incroyable. Pluvieux est ensuite contacté par Benjamin Demey, producteur de l'humoriste, qui lui demande de les aider pour le mettre en scène et développer le show. Depuis, Pluvieux et Demey se sont associés sur de nombreux projets professionnels, dont 14 jours pour aller mieux, dont Demey est le coproducteur. Alors, Édouard Pluvieux et Benjamin Demey ont créé une société de production, Las Palmeiras, en ayant l'idée de développer un scénario qui serait l'adaptation du one-man show de Maxime Gasteuil. Mais les deux hommes ont eu du mal à monter le projet malgré l'intérêt d'un gros distributeur qui leur demandait de réécrire le script. Et Pluvieux raconte. Nous n'y sommes donc pas allés tout en étant assez malheureux, mais nous ne voulions pas faire un film pour faire un film. À cette époque, les garçons sont dans une période où leur amitié bat un peu de l'aile et le frère de Ben leur parle d'un stage de bien-être en Ardèche. Ils décident d'y aller. En revenant, Benjamin et Maxime me disent « il faut qu'on écrive là-dessus ». Le réalisateur décide de s'y rendre à son tour, accompagné de Demey et de son co-scénariste Lionel Dutemple. Le trio ne cache pas ses intentions aux organisateurs du stage qui sont conscients qu'ils viennent une semaine pour écrire une histoire. Et puis Pluvieux se souvient. Et là, je rencontre un couple incroyable, Franck et Vanessa, des gens extrêmement brillants et bienveillants. Mais je reste toujours très sceptique. Petit à petit, je comprends que les participants à ce stage sont des gens perdus qui ont cherché tous les moyens pour aller mieux sans réussir à trouver comment. D'un coup, c'est moins marrant car certains ont un bagage très lourd, perte d'enfants, viol, dépression. Il précise, nous savions que nous tenions un vrai sujet, à la fois ultra sincère et touchant, mais aussi totalement irrésistible. J'ajoute que notre idée n'a jamais été de tourner les choses en ridicule ou de nous moquer en parodiant ce stage. On voulait rire tout en étant sincère. Donc, durant le repérage, le réalisateur a trouvé un centre de stage de bien-être perché dans les montagnes en Ardèche. Mais je le trouvais aussi trop beau et j'ai pensé qu'il donnerait un autre ton que celui que nous souhaitions pour le film. Il a finalement choisi pour décor un centre situé en Charente, appelé le domaine de Bois-Bûcher. Et c'est vrai que c'est tourné pas loin d'ici. C'est un lieu assez hallucinant qui sert de résidence d'architecte fondé par l'ancien responsable du musée Vitra en Allemagne, un fou de design. Il y a plusieurs maisons et lieux sur ce domaine, y compris cette sorte de vélodrome que nous avons utilisé en refaisant toute la décoration intérieure et le bâtiment central qui nous a servi pour les décors des dortoirs ou de la cuisine de notre centre de bien-être. Donc 14 jours pour aller mieux est le premier rôle de Maxime Gasteuil au cinéma. Ce dernier confie à ce sujet. Si je me suis senti aussi à l'aise, c'est parce que je suis entouré des miens. Benjamin Demey produit le film « C'est mon ami » et il y a cru depuis le début. Mais quand on lui disait Gasteuil, c'est un humoriste, ce n'est pas pareil face à une caméra. Lui, comme Édouard Pluvieux, qui me dirige depuis des années en one man show, savent de quoi je suis fait et jusqu'où je peux aller. Tous ensemble, nous voulions montrer à ce marché du cinéma, y compris les financiers, que nous étions sincères et capables. J'aime bien le « y compris les financiers ». Eh oui, c'est eux qui vous l'apportent de manière du tiroir casse pour financer les projets. Donc voilà, une comédie rigolote. Hein,
ouais, légère.
Voilà, qui marche bien.
À voir, et on est très heureux de rendre hommage à Maxime Gasteuil, hein, puisque, on le rappelle, il était venu il y a quelques temps ici, pour faire la promo en avant-première.
Ouais. Exactement, on a pu discuter avec lui, il est vraiment super sympa, Maxime Gasteuil. Hein. Et d'ailleurs, il discutait un petit peu de sa jeunesse à Saint-Émilion, il venait ici en scooter à Sainte-Foy et tout ça, et c'était sympa, on a vraiment bien échangé avec lui. Il est pas resté longtemps, parce qu'il avait une super tournée, il avait plein de cinéma derrière.
Là, oui, il faisait un petit peu la promo pas mal de salles.
Il partait sur Bordeaux, ça m'aidait à Rangel, tout ça. Donc, bon, c'était express, hein, mais c'était super sympa de sa part et de l'équipe de venir de faire un petit coucou. Et puis, je le rappelle, il y avait une ambiance du tonnerre de Brest. Hein, la salle était pleine. Hein, vous avez les photos sur le Facebook. Tu as édité la photo aussi sur ton site.
Oui, absolument.
De Radio Grand Air.
Absolument.
Et génial. quel super moment.
Voilà, et on lui souhaite bon vent pour la suite, ouais, hein, pour ce projet, ouais, et pour d'autres projets qu'il
et
a bien sûr en tête.
Et d'autres projets, surtout une bonne continuation, exactement.
On va parler d'histoire cette semaine à la Brèche avec là aussi un hommage à Madame de Sévigné.
Madame de Sévigné, un film français d'1h32, un drame historique d'Isabelle Brocard. Alors on va retrouver au niveau des acteurs et actrices Karine Viard, Anne Girardot, Cédric Kahn, Noémie Wolofsky, Robert Rinucci, Cyril Mérès, Antoine Prudhomme de la Boussinière, voilà, j'espère que je ne l'ai pas écorché son nom, Alain Libotte. Donc nous sommes au milieu du XVIIe siècle. La marquise de Sévigné veut faire de sa fille une femme brillante et indépendante à son image. Mais plus elle tente d'avoir une emprise sur le destin de la jeune femme, plus celle-ci se rebelle. Mère-fille expérimente alors les tourments d'une relation fusionnelle et dévastatrice. De ce ravage va naître une œuvre majeure de la littérature française. Donc la singularité du rapport mère-fille a toujours interrogé Isabelle Brocard dans ce qu'il a de primitif, constitutif et destructeur. La réalisatrice a lu des ouvrages sur le sujet, notamment « Entre mère et fille, un ravage de Marie-Magdeleine Lessane ». Elle se rappelle, elle y revisite le destin de couples mère-fille célèbres comme Marlène Dietrich et sa fille, Camille Claudel et sa mère, et consacre son premier chapitre à Madame de Sévigné et Madame de Grignan avec un discours très à charge contre la première. Ce chapitre m'a tout de suite interpellé, d'abord parce que, contrairement à l'auteur, je trouvais que la mère et la fille alimentaient toutes les deux cette alignation réciproque. Ensuite, parce que me sautait aux yeux donc le poids de la difficulté d'être femme dans cette histoire. Les contraintes qui pèsent sur les femmes sont en partie à l'origine de cette relation, et c'est encore le cas aujourd'hui. J'ai eu le désir de parler du présent à travers l'acuité de ce siècle passionnant qu'est le XVIIe siècle sur la question des femmes. Je me suis évidemment plongé dans les lettres, et c'était comme si un choix incroyablement spirituel et séduisant venait me parler aujourd'hui de ce lien brûlant, torturé, essentiel qui se noue entre mère et fille. C'était là, sans farde et sans psychologie, une blessure aussi vive qu'il y a 350 ans. J'ai eu envie de l'explorer et de l'incarner. Alors en dehors des lettres, Isabelle Brocard s'est beaucoup appuyée sur la biographie de Roger Duchesne, considéré comme le spécialiste de Madame Sévigné et auquel on doit l'édition des volumes de la Pléiade consacrée aux lettres. Comme elle nous dit, j'avais évidemment beaucoup d'éléments autobiographiques, beaucoup aussi de courriers de ses amis et de ses proches. Madame de Lafayette, Bussy-Rabutin. Parallèlement, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages publiés ces dernières années qui donnent un nouvel éclairage sur la deuxième moitié du XVIIe siècle et sur Louis XIV. On commence à reconnaître que ce n'était pas une période aussi flamboyante que ce que le cinéma a voulu nous raconter. C'était beaucoup de guerres, et oui, Louis XIV, roi guerrier, évidemment, il n'y a pas que, la construction de Versailles. Donc c'était beaucoup de guerres, d'épidémies terribles, d'impôts imposés par la brutalité d'un roi expansionniste, et je trouvais important de le montrer avec mes petits moyens en arrière-plan. Un labyrinthe pour évoquer une scène de cour, quelques cadavres pour parler de la révolte des bonnets rouges. Mais mon matériau de base est resté les lettres. Elles m'ont vraiment inspiré, même si le film n'est biographiquement pas complètement exact. Donc côté référence cinématographique, Isabelle Brocard avait en tête au moment du tournage de Madame de Sévigné, Jane Campion, et plus particulièrement son film d'époque Bright Star, qui réussit à rendre la littérature si présente. C'était l'un des enjeux de Madame de Sévigné, faire de la littérature un personnage. J'ai visionné beaucoup de films d'époque pour le traitement des décors et des costumes, des films anglo-saxons surtout. En France, je trouve les films historiques toujours un peu froids à cet égard. On n'a pas envie d'habiter là où on vit, où vivent les personnages. Les anglo-saxons savent rendre tout plus chaleureux, plus beau, plus riche. Ils ont ce que nous n'avons pas en France parce que c'est trop cher. Quelqu'un pour chapeauter la direction artistique. Anaïs Roman, qui est arrivée très tôt sur la production, qui a un talent fou et connaît parfaitement le XVIIe siècle, a un peu joué ce rôle. Avec elle et Georges Le Chaptois, nous nous sommes inspirés, entre autres, des tableaux de Nicolas Poussin. Donc au niveau des décors et des paysages, donc au moment de l'écriture, donc Isabelle Brocard n'avait pas de comédie en tête. En revanche, elle a rapidement pensé à des décors et des paysages. Et comme elle nous dit, je visualise tout de suite les lieux où va se dérouler mon histoire. Le château de Courance, pas très loin de chez moi, où nous avons tourné les scènes du Marais à Paris, celles en Bretagne et en Bourgogne, le château de Grignan, un château départemental très singulier, où mère et fille ont vécu, et les bords de Loire. Donc le choix d'Anna Girardot donc, était également venu rapidement dans le casting. Madame de Grignan ne pouvait pas avoir une beauté froide. Il fallait qu'elle soit très belle tout en ayant quelque chose de très sensuel, presque félin. Elle se sentait très concernée par le sujet en tant que fille, mais aussi parce qu'elle venait d'être mère. Dans le film, elle passe de jeune fille à femme et mère de plusieurs enfants. Elle devait pouvoir pouvoir apporter encore beaucoup d'adolescence et de fricheur dans son jeu avant d'évoluer vers cette femme dure et brisée de la fin, précise Isabelle Brocard. Donc Carivia interprète Madame de Sévigné. Isabelle Brocard ne voyait aucune autre comédienne pour jouer ce personnage. Et comme elle nous dit, elle était la seule à posséder à la fois l'âge du personnage, sa flamboyance et l'énergie pour la rendre sympathique, y compris lorsque Madame de Sévigné témoigne d'une certaine froideur. Madame de Sévigné était connue pour sa séduction et la vivacité de son esprit. Garine a tout cela, plus un côté très contemporain qui m'intéressait. Voilà un petit peu pour vous aiguiller un petit peu sur la conception donc, du film donc, Madame de Sévigné, donc, à découvrir à la Brèche donc, cette semaine.
Voilà, avec Carine Viard de retour voilà. Sur les écrans, avec un petit peu d'histoire. Et évidemment, la marquise de Sévigné est décédée de la variole. À l'époque, c'était une maladie courante.
La variole, ça a fait des ravages. Effectivement, il n'y a pas trop de remède pour ça.
Non, absolument pas. On va écouter un extrait et on se retrouve juste après.
Je veux que vous ayez la place que vous méritez. Je vous veux heureuse, indépendante et maîtresse de votre destinée.
Madame de Sévigné, vous vous égarez.
Je ne crois pas, sire. Mais c'est le roi. Vous vous marierez. Tout ça sera oublié.
Grignan.
Vous en êtes arrivé à envisager n'importe quel mariage pour votre fille. Le nom de Grignan peut séduire, mais enfin, une maison qui prend l'eau de toutes parts.
Je découvre que l'absence de votre sœur m'est insupportable. La douleur serait bien médiocre si je pouvais vous la dépeindre.
Maintenant qu'il a un héritier, votre papa n'aura plus besoin de coucher avec ma fille.
C'est la seule chose qui m'a peut donner de la consolation.
L'argent me manque de plus en plus, je me ruine.
Et vous me l'avez caché.
Le mariage ne vous oblige en rien. Rentrez avec moi à Paris.
Je suis tout entière au service de mon mari, que j'aime. Mais c'est quelque chose que vous ne semblez pas comprendre.
Grignan va faire mourir ma fille.
Françoise, il use d'elle, il abuse d'elle.
Sortez.
Vous ne savez plus l'aimer. Vous en êtes juste obsédé.
Voilà, Madame de Sévigné à voir cette semaine sur les écrans de La Brèche, Pascal. On va poursuivre le sixième rendez-vous de la semaine. On va parler d'abeilles.
Entre autres. c'est pas un film sur l'apiculture quand
Et
même.
Non.
C'est un peu plus complexe. Alors, il faut savoir une chose, c'est... Donc 20 000 espèces d'abeilles, donc un film espagnol, un drame ouais. De 2h08. Hein. Déjà ce prix, ce film a reçu un prix. Hein, il a reçu l'Ours d'argent de la meilleure interprétation féminine pour Sofia Otero. Hein. Donc c'est un film de Estibaliz Urresola Solagorren. Autant vous dire qu'on est dans le Pays Basque espagnol. Hein. Le Pays Basque, oui c'est ça, le Pays Basque espagnol. Mm-hmm. Au niveau des acteurs, on va retrouver Sofia Otero, Patricia Lopez Arnaiz, Anne Gabarien, Itziar Loscano, Marcello Rubio, Sara Cosar, Unax Hayden et Coise Blanco. J'espère que je n'ai pas écorché leur nom. Alors, c'est l'histoire de Coco, 8 ans, qui a bien du mal à savoir qui elle est. Au cours d'un été passé parmi les ruches du Pays Basque, elle éveille sa singularité au sein des femmes de sa famille, elle-même en proie au doute. Dans un monde où il existe 20 000 espèces d'abeilles différentes, il existe forcément une identité qui correspond à Coco. Alors, au niveau de la naissance du projet, l'histoire du film est née du besoin pour Estibaliz Urresola Solagorren d'interroger les limites d'un système où le sexe équivaut strictement au genre, niant l'existence du genre comme d'un spectre. La réalisatrice précise « C'est une sanction sociale qui est à l'origine de beaucoup de souffrances encore aujourd'hui. Cette vision pesante est représentée dans le film par la figure du père et son travail et par sa vision stéréotypée de la féminité et de la masculinité. On le voit aussi dans la passation de l'atelier, un héritage dont Anne, pourtant, le personnage le plus progressiste du film ne veut pas se débarrasser. Estibaliz Urresola Solagorren a pris contact avec une association qui l'a mise en rapport avec une vingtaine de familles dont les enfants avaient entre 3 et 9 ans. Tous ont donné aux cinéastes accès à leur intimité avec générosité. Et comme elle nous dit, je retiens notamment ce que m'ont dit certaines familles sur le parcours de leur enfant. qu'elle voyait comme une expérience positive qui leur avait permis de se redéfinir en tant que famille. Elle ne l'avait pas vécu comme un problème, mais comme un processus qui venait mettre en lumière et questionner leur cadre familial. Pour les parents, cela interrogeait leur relation avec leurs fils et filles et leur rôle en tant que père et mère, ainsi que leur ressenti au sujet de leur propre identité. Ce que j'ai trouvé touchant, c'est que ces familles ne parlaient jamais de transition pour définir le processus que leurs fils et filles transgenres traversaient. Au contraire, c'était la perception donc des familles et de leur entourage qui étaient en phase de transition. Les enfants restaient qui ils étaient, c'était aux autres de devoir changer et évoluer. C'est ce point de vue qu'on retrouve dans mon film. Donc, dans une ruche, chaque abeille... Alors, c'est la métaphore, évidemment, oui. De l'apiculture. Hein. Mm-hmm. Donc, dans une ruche, chaque abeille remplit un rôle distinct et nécessaire au fonctionnement du groupe. Toutefois, une ruche dépasse la somme de ses individus. C'est un organisme vivant en soi, qui me semblait faire écho au thème du film en raison de la tension entre l'individu et la communauté. Estibalis Urisola Solagouren précise, « Dans une ruche, les abeilles sont interdépendantes, mais en même temps, chacune y joue un rôle spécifique. » À mon sens, cette image permettait d'évoquer des relations familiales telles qu'elles sont représentées dans le film. Par ailleurs, les abeilles et les ruches jouent un rôle important à la fois social et spirituel dans la structure traditionnelle basque que je souhaitais montrer à l'écran. L'abeille est considérée comme un animal sacré. En langue basque, on utilise des mots « zou » comme « toi » ou « usted » vous pour parler des abeilles avec respect. C'est joli ?
Absolument, joli tableau.
Et l'abeille aussi, c'est quel emblème aussi en France ?
Je ne sais pas.
Le premier empire.
D'accord.
L'abeille est le symbole.
D'accord.
Alors, qui pour Coco, donc, pour jouer donc, l'interprète, donc, pour trouver l'interprète de Coco, Estibalis Urresola Solagouren a vu 500 fillettes. Elle a rencontré Sofia Otter au début des auditions. Il a tout de suite imaginé dans le rôle de l'une des filles pauvres du film. Et la réalisatrice explique. Elle était très bonne en improvisation, mais elle ne correspondait pas à l'idée que je me faisais de Coco au début. À la fin du casting, je me suis rendu compte que je ne lui avais jamais vraiment proposé de jouer Coco et j'ai décidé de l'auditionner une dernière fois. Son essai m'a ôté tout doute, ce serait elle et pas une autre. Voilà un petit peu pour vous aiguiller sur ce film qui était une belle immersion dans le Pays Basque contemporain et qui parle de transgenre évidemment.
Merci pour cette démonstration et explication, cher Pascal. On va revenir sur l'artiste de la semaine que tu as choisi. Il s'appelle Bernard Farcy, qui sera donc sur les écrans cette semaine. Vous allez pouvoir le voir, évidemment. Il est de retour et vous le connaissez forcément. Vous l'avez déjà vu dans une série de films à la française.
Absolument, entre autres Taxi. Ouais. Ben, alors, tout le monde, je pense que tout le monde l'a découvert vraiment dans Taxi. Hein.
En fait, il a commencé beaucoup plus tôt.
Il a
commencé très tôt.
Ah, oui. Mais tu vas voir, dans
les années 80.
En 83. Attends, dans lequel film ? Vas-y.
Alors, dans les années 80.
De Jean-Jacques Benex avec Gérard Depardieu et Victoria Abril. 1983.
Alors, j'aurais dit un film avec Belmondo.
Non.
Et Solitaire.
Non.
Et pourtant, si.
Ah d'accord, excuse-moi. Je l'ai pas capté. On va commencer par le début.
Il a même joué avec Delon. D'accord.
D'accord, mais il a joué avec des grands acteurs alors.
Ouais. Allons-y.
Donc il est né le 17 mars 1949. Oui.
Ah oui,
parce qu'il fait un jeune homme de 74 ans.
C'est très bien.
Je le voyais pas aussi ancien.
Bah, le temps passe, hein,
ouais, carrément. Donc Bernard Farcy, c'est 36 années de carrière, 51 films et séries tournées, ce qui n'est pas franchement énorme.
Hein. Oui.
2 nominations. Il n'a pas eu de prix, c'est pas gentil.
Nomination dans les taxis alors.
Je ne les ai pas notées, pardon.
Bah non, je suis vraiment désolé. Je sais, oui, de tête.
1983, oui, il a joué dans un film de Jean-Jacques Benex avec Gérard Depardieu, Victoria Abril. Ça fait que ça commence par la lune. Oh. Oh. La lune dans... Le caniveau.
Ah oui, d'accord. Oui.
La lune dans le caniveau de Jean-Jacques Benex, oui,
pardon,
absolument.
Ouais, excusez-moi, mon cher Pascal.
En 84, un film de Michel Blanc avec Gérard Lanvin et Sophie Duez. Un film de Michel Blanc.
Marche à l'ombre.
Exactement.
Ah oui,
mais oui.
Ah oui, j'avais complètement zappé. Ah oui, il fait le méchant, lui, là. Dans le métro.
Il
le raquette.
Il me semble.
Parce qu'il joue la guitare, les deux, là. Et...
Bon, mais vu que t'es bon dans le quiz, je continue. En 86, un film de Bertrand Blier avec Michel Blanc et Miu Miu. Tenue.
Tenue de soirée.
Tenue de soirée, ah, absolument, ouais. En 86. En 92, un super film de Christian Fechner. Celui-là, il est pas simple, mais pourtant, il a marqué les esprits. Hein. Avec Tiki Olgado, Pierre-Olivier Mornas,
Une époque formidable, non, c'est pas ça?
Ouais, tu y es presque.
Ah mince.
Il est vraiment de cette époque-là. Justinien Trouvé ou le bâtard de Dieu.
Ah d'accord.
Ce gamin-là avait le nez coupé, ça te dit rien, avec un cache-nez en cuir.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Un cache-nez en cuir, parce qu'il a le nez coupé, justement. Mm-hmm. En 1994, un film de Michel Blanc, toujours, avec Philippe Noiret et Marie-Anne Chazelle. Grosse fatigue.
Ah oui.
Et là, c'est la saga. 98.
Il va enchaîner les taxis.
Un film des Gérard Pires avec Samina Seri, Frédéric de Fiental. Taxi.
Ouais. Commissaire Gibert, lui.
Commissaire Gibert. En 2000, Taxi 2 de Gérard Krawczyk. En 2001, un film de Christophe Gans avec Samuel Le Bihan et Jérémy Régnier. Et j'en passe. Mm-hmm. Le Pacte des loups.
Très bon film.
Je ne l'ai pas vu passer dedans.
Alors moi non plus.
Je n'ai pas vu passer Bernard Farcy dans le Pacte des loups.
Peut-être dans les enquêteurs...
Peut-être.
Oui.
Enfin, mais je le vois pas, tu vois, je vois. Ouais. En 2002, Taxi 3, toujours de Gérard Krawczyk. Mm-hmm. 2007, toujours du même réalisateur, Taxi 4. Et évidemment, en 2018. Alors, 2007, Taxi 4, et pratiquement 10 ans plus tard. Oui, oui.
Il y a eu le 5.
2018.
Oui. Ah ouais.
2018, Taxi 5.
Ouais, je sais pas si ça a bien marché, le 5.
Castambide avec Malika Bentala et Franck Castambide. Alors, il n'y avait pas Samina Seri, ce qui a créé une sacrée polémique. Lui, il n'était pas très content. Hein.
Oui, Samina je pense Seri, qu'il avait des casseroles aussi, hein, notre ami.
Oh, il a quelques casseroles, certes. Et puis, peut-être qu'il était pas moins gérable qu'avant. Je sais pas.
Ouais.
À voir. Mais voilà.
Autant dans le film des indigènes, c'était très, très bon. Très bon acteur.
Ah oui. Ah oui, oui, bien sûr.
Très
bien
bon
sûr.
Acteur.
Oui, oui. Mais moi, Samina Seri, moi, je l'ai vu jouer dans les petits films à réessayer il y a super longtemps. Hein, mes premières années de projectionniste. Hein, déjà, il jouait dans les petits films, Samina Seri. Hein. Voilà un petit peu pour vous parler de la filmographie donc de Bernard Farcy. On va passer à sa biographie. Qui es-tu? D'où viens-tu? Bernard Farcy, donc, débute sa carrière cinématographique en 83 avec un petit rôle dans La Lune dans le caniveau de Jean-Jacques Benex. Un an plus tard, il joue dans Notre histoire de Bertrand Blier, qu'il retrouvera à l'occasion du tournage de Nuit de soirée. Après avoir tourné sous la direction du comédien Michel Blanc dans Marche à l'ombre en 84, ce n'est que 10 ans après que le réalisateur lui donnera l'opportunité d'incarner le rôle d'un employé de la NPE dans la comédie décalée Grosse fatigue. Employé de la NPE, grosse fatigue. Entre-temps, Bernard Farcy évolue dans des seconds rôles aux côtés des grandes figures du cinéma telles que Jean-Paul Belmondo
dans Solitaire.
Exactement. Ouais. Ou bien Alain Delon dans
Ne réveillez pas un flic qui dort.
Ah putain, tu cartonnerais dans les couilles, ça. Oh la vache. Il travaille notamment pour Ariel Zeitoun dans Saxo, Yves Boisset dans La Travestie et Christian Fechner dans Justinien Trouvé ou Le Bâtard de Dieu. Mm. C'est à partir de 1995 que la carrière de Bernard Farcy commence à prendre un nouveau virage avec son rôle de chef d'entreprise infect dans... Oh, je l'ai pas noté celui-là.
Ah mince.
Les trois frères. Les trois frères,
oui,
la comédie des inconnus,
oui,
exactement.
Vrai,
le chef d'entreprise infect. Il enchaîne ensuite avec les sœurs...
Ah oui, c'était le patron là qui avait une couette. Tu te rappelles pas?
Si. Il enchaîne ensuite avec Les Sœurs Soleil et La Divine Poursuite avant de décrocher le rôle qui lui confère une énorme popularité, celui du commissaire loufoque de Taxi, qu'il reprend dans Taxi 2 et Taxi 3. Désormais adepte des comédies à succès, il tient l'affiche aux côtés de Alain Chabat dans... Et oui, il y était. Je l'ai pas noté celui-là. Dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
Je l'ai raté, ouais.
Où il compre le rôle du chef des pirates, mais oui, ça y est.
D'accord.
Je le remets. Non, ça, tu ne te souviens pas?
Non,
le chef des pirates, bien sûr. Suivront donc les percutés Albert et Méchant, dans le film Albert et Méchant, People, Jet Set 2 et Is No Good. On le retrouve cependant dans d'autres registres comme le film d'aventure, donc Le Pacte des loups. En 2006, il est choisi pour incarner un personnage
avec
historique.
Avec Le Bihan, je crois.
Oh, je l'avais oublié celui-là. Oh, que je suis mauvais. Le personnage historique. Mais ça, c'est un téléfilm.
Ah oui.
Il était pas mal, je l'ai vu, je me suis penché dessus. Il y a eu plusieurs téléfilms sur ce personnage-là, qui est très connu, de la Seconde Guerre mondiale, personnage pivot de France.
Ça te dit rien. De Gaulle.
Charles de Gaulle.
Et oui, c'est vrai, oui, il avait joué le.
Absolument, et ça allait.
Bon, c'était,
franchement, ça passait.
C'était peut-être moins bon que Lambert Wilson.
Ouais.
Parce que Lambert Wilson a joué dans les De Gaulle.
Oui. Mais ça passait, je l'ai vu, franchement, ça passait bien.
Ouais.
Dont la vie est retracée dans le téléfilm, donc Le Grand Charles. En 2007, il endosse pour la quatrième fois le costume du commissaire dans Taxi 4. Il joue en 2009 aux côtés de Catherine Froux et Albert Dupontel dans Le Vilain. Qui n'a pas très marché, celui-là, pas très bien marché. Assez rare que ce soit sur petit ou grand écran, Bernard Farcy prend part en 2016 à la comédie se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, La folle histoire de Max et Léon, puis se glisse à nouveau dans le célèbre commissaire incompétent pour les besoins de Taxi 5 en 2018. Voilà un petit peu pour vous parler d'un petit peu de sa filmographie. Elle n'est pas finie. Hein. J'espère que il nous fera d'autres films. Mais il est sympa, Bernard Farcy. Moi, je trouve qu'il est bien. Il est juste dans son jeu.
Ouais, moi, j'aime bien. Hein.
Dans 14 jours pour aller mieux, pareil. Il est super marrant. Moi, j'ai adoré aussi.
Ouais, il a ce rôle côté de personnage décalé. Je trouve sympa.
Donc voilà, on lui souhaite une longue, longue carrière. Et j'espère qu'il fera marrer encore plein de gens.
Absolument. Avant de nous quitter, Pascal, on va peut-être parler de 2-3 chiffres que tu nous as relevés. C'est très important. Tu as retrouvé ta feuille. On devait en parler dans une émission précédente. Un petit bilan de.
Alors, c'est le box-office des films de La Brèche.
Ah ouais, très intéressant ça.
Alors, déjà, juste pour revenir sur les chiffres, La Brèche, cette année, l'année 2023, c'est 65 142 entrées.
Ah ouais.
Donc, on atteint presque les 70 000. Et c'est en nombre de séances, qui est pas mal aussi, c'est 3534 séances dans l'année. 3534. Et je vous passe les séances scolaires.
La sortie Covid, c'était pas forcément évident de relancer le cinéma. Ça s'est bien passé.
Ça repart très très bien là. Alors, c'est quoi le premier film alors, au box-office de La Brèche avec,
sur l'année 2023
2270 entrées.
Avatar.
Non.
Bon.
Non, 2023, il n'y avait pas Avatar.
Ah oui, Les Cuches.
Les Cuches.
Les Tuches.
Et non, c'est Astérix.
Ah d'accord.
Et Obélix, l'Empire du Milieu, 2270 entrées.
D'accord.
En deuxième position, ça m'attendait que tu le trouves celui-là. Avec 2162 entrées, en gros carton. C'était d'ailleurs une grosse surprise. Hein.
Alors là.
C'est Super Mario Bros.
Ah bon ?
Super Mario Bros.
Non, j'aurais pas pensé à ça.
Le troisième avec 1718 entrées. La poupée.
À Barbie ?
C'est Barbie.
Ah oui, c'est vrai, ça a été un franc succès.
Pardon, je t'avais dit Avatar, oui, je l'ai Avatar ici.
Ah oui, d'accord,
une grosse bêtise, c'est le numéro 4. Avatar, la voix de l'eau.
Bon.
Avec 1523 entrées. En cinquième position, on va retrouver Alibi.com 2, avec 1457 entrées. Ensuite, on aura Wonka, avec 1255. Désolé. Ensuite, en septième position, on aura Les Trois Mousquetaires d'Artagnan.
Ah bah oui.
Avec plus de 1140 entrées.
Ça, c'est bien mérité.
En huitième position, je m'arrête à 10. On va retrouver Paw Patrol, la Super Patrouille. La Pat Patrouille. Pareil, un gros carton avec 1122 entrées. Et en neuvième position, on aura Oppenheimer. Je pensais qu'il talonnait vraiment Barbie. Pas du tout. Hein. Bon, il a talonné un petit peu de...
Ce film a reçu d'énormes récompenses.
Exactement.
A été énormément primé.
Donc on a fait 1099 entrées et en position numéro 10, et bien c'est Indiana Jones et le cadran de la destinée avec 1025 entrées. Voilà, un petit peu.
On n'a pas Mission Impossible.
Le top 10, Mission Impossible, non, il n'y est pas dessus. Mission Impossible, il est en 16e position avec 791 entrées.
D'accord, bon. Tom Cruise n'aura qu'à bien se tenir.
Non, il avait un petit coup de mou. Impossible, franchement.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas eu les résultats escomptés. Hein,
on doit voir la deuxième partie qui doit sortir bientôt.
Ouais, voilà. Bon,
ça va traîner un peu.
On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne on espère qu'il y aura du succès, mais bon, j'ai l'impression que le genre s'essouffle. J'ai l'impression, c'est l'impression que j'ai eu un petit peu, parce que ça je dis pas que ça battait de l'aile, mais y a un peu moins d'engouement que les autres films, évidemment. On n'est pas sur du Maverick ou du Top Gun, qui lui cartonne à chaque fois.
Oui.
Par contre, là c'est une valeur sûre, par contre, il peut en ressortir un autre, nos problèmes. C'est un film, tu vois, parfois on le reprenait juste sur une séance, mais on va dire des semaines, voire des mois après sa sortie, on faisait des bons résultats. Mais juste sur une séance, tu vois, on faisait, je sais pas moi, 70 entrées, 80 entrées, les gens revenaient, ou certains, je soupçonne certains de revenir le voir plusieurs fois. Donc écoute, c'est comme ça quoi. Donc voilà un petit peu pour vous donner une idée de La Brèche. Voilà, donc là on a fait 65 142. L'objectif, il était de 70 000 entrées. On aurait pu les faire si les vacances de Noël étaient décalées un petit peu vers 2022.
Ah, il y avait ça aussi,
vers 2023, tu vois. Parce qu'il y a une partie quelques jours en 2023, et c'est des jours qui pèsent lourd, mine de rien, les vacances de Noël. Donc on les a pas. Mais sinon, on serait à 67 000, on dirait à peu près par là, quoi. Voilà.
Voilà. Merci Pascal pour ce bilan assez encourageant pour la suite du cinéma La Brèche en tout cas. Merci pour cette séance cinéma. On se retrouve bien la semaine prochaine.
On va essayer de ne pas tomber malade.
On va se doper.
On va se retrouver la semaine prochaine, bien sûr.
Le printemps arrive.
Oui.
Et vous allez pouvoir aller au cinéma, effectivement, tarif très très intéressant.
Voilà, printemps du cinéma, je le rappelle, hein, dimanche 24, lundi 25 et mardi 26, on en reparlera un petit peu, hein, je vous parlerai des films,
l'émission, ouais.
Des films un petit peu à l'affiche. Hein.
Merci Pascal, je te laisse le mot
Merci
de la
Philippe.
Fin.
Eh bien, prenez soin des vôtres, regardez-moi la télé, écoutez Radio Grand Air et ben, venez voir tout ce qu'on a à vous proposer à La Brèche, hein, on vous attend nombreux.
À très bientôt,
Christophe. Bonne semaine à tous.